sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée par Jean Frédéric, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Caroline Châtelet, Marie-Josée Serrache et René Solis. À notre affiche, joueur Mao 2 et les noms d'après Don DeLillo. Mise en scène par Julien Gosselin, c'est en ce moment à l'Odéon, puis en tournée. Il nous faut arracher la joie au jour qui file d'après Hamlet de Shakespeare, de Benjamin Poré et Mathieu de Sertine, en ce moment à l'affiche du théâtre des Gémeaux à Sceaux. Tournée ensuite, Love, Love, Love de Mike Bartlett, mise en scène Nora Granovski au théâtre de Belleville. Il y aura un coup de cœur, un hommage rendu ce soir par René Solis à Jean-Loup Rivière. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Michel Riopel et un couple dans la démesure. C'est à voir au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau. Exposition à voir jusqu'au 22 avril. Nous ouvrons cette dispute avec joueur Mao 2, les noms d'après Don DeLillo, adapté et mis en scène par Julien Gosselin en ce moment à l'Odéon Théâtre de l'Europe, avant de poursuivre sa vie en tournée. On se souvient que Julien Gosselin avait été révélé, disons, au plus grand public au Festival d'Avignon en 2013 avec son adaptation des Particules élémentaires de Michel Houellebecq, qui poursuit, je pense, encore sa vie en tournée, tout comme 2666 d'après Roberto Bolaño, créé à Avignon en 2016. Spectacle long cours à nouveau avec cette trilogie de Lillo créée au dernier festival d'Avignon, 2018 donc. Plus de 9 heures de spectacle qui ne s'arrêtent jamais vraiment et où violence physique, sociale, économique et réflexion sur l'art sont à nouveau au rendez-vous comme c'était le cas pour les spectacles précédents.
On va tout faire péter, mec.
Ouais. Il va faire ça en trombone.
J'ai pris des tromboles. Elles sont toutes petites. La taille idéale pour ce que nous voulons. Je me suis renseigné pour les pots. Nous avons un bon mélange et qu'on ajoute du propane dans les tromboles.
Il veut un feu d'artifice.
Quand ça saute, le feu d'artifice vient du propane et ça fait plus de dégâts. Tout ce qu'il aura à faire, c'est de laisser entrer le montrer en montrer à cacher le truc. C'est précis. Je fais tout pour que ce soit précis. Pas de fantastique, mon vieux.
Ça va être amplement parce qu'on ne peut pas entrer à la
maison. Je te dis, la taille idéale, exactement ce qu'il faut pour ce combat.
Il y a un enfant,
on va tout faire sauter jusqu'au boyau. Tu connais le machin plus que j'ai quelque chose.
Je vais respirer.
Bah, tout ce qu'il aura à faire, c'est de laisser entrer le montrer en montrer bien caché.
Oui, ça démarre. T'en vas, Louis.
Pour les bombes, c'est un peu différent. Je prends mon temps.
Tu devrais voir ce qu'il fait, là, les cartes de crédit en maître. Mais il arrive d'avoir ses douleurs.
Bibliothèque, tu sais qu'il s'agit de la bibliothèque, tout est là, je vais la garantir, oui. De la science par-dessus la casquette, disons. De la science par-dessus le
tout. Louis, ça me fait un chute.
Ah, oui, je l'ai demandé.
Où l'as-tu trouvé? Raconte-la, Layette.
Ah, je l'ai volé dans New Jersey, une brave dame qui avait dans sa voiture.
Orange et blessé.
Mais c'est le qui dépassait là-bas.
Il y avait une radio et une couverture avec.
Oh là, ordinaire.
Encore un peu, j'en ai eu le bloc porteur.
Allez, il faut que nous soyons honnêtes. Maintenant, même si c'est la dernière fois, je veux que tout sache la vérité pour mon frère. Il y a toujours eu un élément de folie dans sa vie. J'emploie ce mot-là plutôt qu'un terme clinique parce que je ne veux pas être évasif. Je vais l'exprimer avec toute la force dont je peux disposer. Pour ceux qui le connaissaient, il y avait la certitude que cela arriverait à un moment donné. Violence, rage, menace des suicides, tentative. Il fallait être prêt à l'aimer, à le tuer, ou à rester à l'écart.
Voilà pour cet extrait de ce marathon théâtral. En ce moment à l'Odéon, Mao, joueur Mao 2, les noms d'après Don DeLillo, spectacle mis en scène par Julien Gosselin. Caroline Châtelet, si vous commenciez à nous en parler.
Bien, donc je vais commencer à en parler. Alors pour dire quelques mots, donc ce spectacle a été créé à Avignon. Moi je ne l'ai pas vu à Avignon, là je l'ai vu lors de sa reprise au Théâtre de l'Odéon. Déjà une petite précision, personnellement je n'ai jamais vu les spectacles au long cours de Julien Gosselin, donc qui est connu quand même pour faire des épopées théâtrales. Donc avant les joueurs Mao 2 et les noms, il a monté 2666 de Roberto Bolaño que je n'ai pas vu. Avant cela, il avait monté les particules élémentaires, je ne l'ai pas vu non plus, mais j'ai vu ses petites formes, donc son tout premier spectacle, Gen 01, et deux autres spectacles. Donc c'est vrai que c'est une découverte comme ça d'une sorte de théâtre somme. Alors pour dire quelques mots sur les textes, Joueur, qui est un texte qui a été écrit en 1977, raconte les dérives d'un trader, les relations avec sa femme, et aussi dont le collègue de ce trader s'est fait abattre en pleine salle des marchés. Mao 2, qui a été écrit en 1990, raconte l'histoire d'un vieil écrivain solitaire qui se laisse aspirer aussi par une guerre civile au Liban. Et donc ce serait un petit peu la figure de l'écrivain solitaire versus celle du terrorisme moyen-oriental. Et les noms se déroulent en Grèce et on a les confidences d'un homme qui parle et qui est à la recherche d'étranges sectes qui enlèvent des personnes et tuent ses victimes en se basant sur l'alphabet. Donc ce sont déjà en fait trois récits qui sont assez complexes, en tout cas tels qu'ils sont redonnés au plateau. Après, pour revenir sur le spectacle en lui-même, le spectacle débute par le son. Il débute par le son, mais un son qui est lié à une image, et cette image, c'est celle d'un film. Donc en fait, le spectacle, on entre dans ce spectacle par le cinéma, mais par le son d'abord. On a un dispositif avec un écran qui est donné comme écran, donc qui est en relief avec un cadre, et avec deux plus petits écrans situés de part et d'autre de celui-ci en bas. Donc on débute par peut-être 50 minutes ou une heure de film, mais on comprend assez rapidement que ce qui nous est donné à voir est joué en direct, puisque il y a également des rideaux qui bordent cet écran, derrière lequel les lumières bouge, ce qui nous signifie que les acteurs sont en train de jouer. Donc en fait, cela commence comme du cinéma en train de se faire. Et en cela, on peut se dire que c'est une référence à Godard. Je pense que ça, j'y reviendrai. Et en fait, le spectacle ne va cesser comme ça pendant tout son déroulé d'un texte à l'autre, donc dans ces trois parties, de passer sans arrêt de différentes manières de concevoir du cinéma. Donc il y a des moments où nous ne voyons que les films. On a deux grands écrans différents. On a des écrans qui bougent aussi dans la scénographie. Et on alterne avec quelques moments où les acteurs sont là. Mais mis à part peut-être un ou deux moments dans les 9h10 que constitue ce spectacle, les comédiens ne s'adressent jamais à nous, spectateurs. Ils s'adressent toujours à la caméra, majoritairement.
Premier regard, au sens vraiment, vous avez donné des bases qui sont importantes, Caroline, mais après je vais vous demander de les commenter, mais continuer un tour de table avec René Solis, qui a souvent parlé ici de Julien Gosselin, avec
d'ailleurs, c'est drôle, des
amours différents.
J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un spectacle de Julien Gosselin, il se trouve que je suis à la dispute pour en parler.
Tout ça a été prévu, longue date, c'est un hasard.
Et donc, moi j'ai toujours eu... un certain nombre de réserves sur les grands spectacles de Julien Gosselin, ceux que vous mentionnez, Arnaud et Caroline. Et j'ai toujours, ma critique, elle était surtout que je les trouvais souvent un peu trop illustratifs au premier degré, présentant c'est du théâtre récit assez linéaire comme ça, qui est plutôt bien fait. Il a une vraie un vrai talent pour adapter les romans au théâtre, pour en faire les transformer en récits. Et en même temps, j'étais un peu frustré. Je trouvais que le Houellebecq manquait de cruauté, d'ambiguïté, il y avait une dimension méchante qui n'était pas là. Et je trouvais que le 2666 était une façon d'édulcorer le roman de Bolaño, de le simplifier à l'extrême. Et par ailleurs, j'ai toujours, il y a l'éthique de mise en scène qui sont toujours un peu agaçants, qui, on l'entend dans l'extrait, la propension à monter beaucoup le son, à monter les basses, enfin à insister, à faire jouer ces acteurs de façon très véhémente, enfin bon voilà. Bon, tout ça, mais je reconnais évidemment aussi à Julien Gosselin un talent de metteur en scène, et je dois dire que ce spectacle sur Don DeLillo, où il refait le coup du spectacle au long cours, etc., c'est peut-être pas celui qui est le plus réussi formellement de Julien Gosselin, c'est pas forcément celui qui aura le plus de succès public, mais c'est sans doute de ces spectacles au long cours celui qui moi m'a le plus intéressé. Et il m'a le plus intéressé parce que justement, vous parliez de complexité, Caroline, on a l'impression qu'il se heurte là à un os, c'est-à-dire que son système de théâtre-récit comme ça, de finalement de forme très linéaire et très, très directe, ça marche pas avec DeLillo, parce que DeLillo, on s'y perd tout le temps. C'est quand même un maître de la digression, de l'association, c'est formidable à cause de ça, c'est un très grand écrivain. Donc l'ambition du projet, là encore, elle est démesurée, en prendre 3, il en même prendre 4, puisqu'il fait aussi La Chinoise de Godard, enfin il y a un extrême, enfin qui est une espèce d'intermède, justement il se heurte à quelque chose qui d'une certaine façon ne marche pas dans son système, et c'est ce qui ne marche pas qui moi m'intéresse, c'est-à-dire que du coup on s'y perd dans ce spectacle, on s'y perd et c'est bien de s'y perdre, c'est-à-dire que on n'a plus la maîtrise, il n'a plus la maîtrise et le spectateur non plus du coup, et on est obligé de reconstituer sans arrêt les histoires, ce qui se déroule, de dire mais là je comprends pas qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que cette façon de pas arriver d'une certaine manière à la forme qui est celle qu'il affectionne a créé des effets intéressants. Et puis je reviendrai sur un moment que je trouve absolument formidable dans ce spectacle.
Bon, alors là, c'est à 3 petits points de suspension. Pour l'instant, Marie-Josée Cirage, premier regard sur cette trilogie de Lilo par Julien Gosselin.
C'est une saga théâtrale, mais filmique, j'ose même pas dire le mot, parce que pour moi, l'image, elle est percutée, enfin, elle vient percuter le théâtre, et donc c'est du théâtre permanent. C'est un vivier, c'est quelque chose qui nous emporte. On l'entendait là dans l'extrait que vous avez passé. Ce rythme, il y a une pulsation permanente qui est là, qui nous tient en haleine. Et c'est vrai, vous avez raison, René, on se perd. Mais comme on se perd dans l'écriture de Lilo, c'est-à-dire que parfois il nous laisse sur le bord du chemin. Et là, on retrouve ce sentiment-là d'égarement, mais sans jamais se départir du questionnement sur la violence. Et c'est celle-là qui rejaillit en permanence, qui est reposée sur le plateau, avec les trois livres qui sont ici présentés, où la question du terrorisme, de la violence. Moi, j'ai pensé, c'est peut-être très loin, c'est parce qu'il y a cette écriture chez DeLillo qui est très panoramique, enfin, il y a des paysages, mais des paysages mentaux, il y a le Liban qui passe, mais c'est le Liban des années 70, c'est-à-dire c'est celui qui était en pleine implosion, il y a ce couple de New-Yorkais qui bascule dans le terrorisme, des questionnements d'une Amérique dans les années 70 qui sort d'une longue histoire de bataille des droits civiques, d'émancipation de la femme, qui se retrouve plongée dans le chaos, parce que l'Amérique n'est quand même pas n'importe quel pays, et ça me renvoyait peut-être il était une fois l'Amérique de Sergio Leone, c'est-à-dire on va écrire une saga, un nouveau chapitre dans cette histoire tellement mouvantée. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment c'est du théâtre, c'est 10h30 de théâtre, il y a une liberté sur le plateau qu'on éprouve nous spectateurs, c'est-à-dire qu'on n'est jamais prisonnier, on peut entrer dans la pièce, en sortir, mais aussi bien mentalement que physiquement. C'est une aventure qui nous fait partager. On ressent la transe, les émotions, les contradictions, ça castiane sexe, il y a du sang, il y a de la sueur. Et l'image là-dedans ne vient pas interférer ou détourner l'attention. Elle vient encore plus nous inviter à nous laisser partir, ne pas nous empêcher d'aimer, d'être agacé. Et je trouve qu'il a un talent fou, ce jeune homme. Il a un talent fou, quoi. Il a 31 ans. Je me dis, mais quelle intelligence, que ce soit, moi j'ai tout aimé chez lui, c'est-à-dire le Bolaño, le Houellebecq, le premier que j'avais vu, moi, Tristesse animale noire, où il y avait déjà tout ça qui était là, c'est un spectacle tout court, mais tous les ingrédients de sa façon de faire du théâtre sur le plateau, avec des acteurs qui ne sont pas en roue libre, mais qui se donnent à fond et dans une générosité. Voilà, moi j'ai retrouvé tous ces ingrédients-là et je trouve que chaque fois il gagne en maturité, en intelligence de jeu et de mise en scène.
Bon, Caroline Châtelet, je reviens vers vous parce que vous avez très bien décrit tout à l'heure le spectacle au long cours, mais pas encore donné votre sentiment vraiment dessus.
Oui, alors juste pour revenir, vous disiez qu'il y a un extrait de la chinoise dans la première partie du spectacle, donc qui est les joueurs. Donc en fait, c'est un dialogue entre Adam Fiasemski, qui interprète Véronique, et Francis Janson, donc qui lui était philosophe, membre du FLN.
Porteur de balises.
Voilà, qui a été l'un des rédacteurs de la déclaration de Villeurbanne. Et voilà, mais en fait, c'est plus que ça, puisque toute la première partie et presque tout le spectacle fait sans arrêt référence à la chinoise pour la première partie et au cinéma de Godard. Dans la première partie, on a la référence aux couleurs avec les textes des mêmes couleurs, on a des références en termes de costumes et d'accessoires.
Dès le départ, avec les visages peints aussi, hein, sur le cran du tout début des personnages.
Hein. Oui, exactement, oui, avec les costumes de couleurs, avec le petit livre rouge. Et au final, tout comme la Chinoise commence par « c'est un film en train de se faire », moi j'ai l'impression que c'est aussi un film en train de se faire qu'essaye de faire Julien Gosselin, et que formellement c'est extrêmement impressionnant, c'est très maîtrisé techniquement, les comédiens tiennent sur toute la durée du spectacle, enfin en termes techniques c'est assez complexe, enfin on a un montage permanent qui là aussi travaille avec la manière de Godard de cadre, enfin champ hors champ, cadrage, décadrage, tout ce travail de montage là. Mais pour moi le problème c'est que on s'y perd et que oui, moi je m'y perds, et que mis à part le fait que le spectacle durant très longtemps des termes émergent à force de leur répétition, donc la question du terrorisme, de la circulation des biens et des personnes, ce serait un petit peu notre préhistoire, enfin des personnes qui sont comme ça dans le monde des années 70-80 et qui annonce aussi notre monde ultralibéral d'aujourd'hui, avec les inquiétudes qui sont centrales aujourd'hui dans notre monde. Mais personnellement, je trouve que ça met quand même beaucoup de temps à émerger, et il est extrêmement difficile de savoir de quoi ça parle. Moi j'ai l'impression que c'est une forme très maîtrisé, que c'est une prouesse technique pour la forme, mais que émotionnellement et intellectuellement, il n'y a pas tellement de fond.
Bon, alors moi c'est vrai que je partage notamment l'avis de Marie-Joëlle Zira sur le saut qualitatif, je crois qu'à la fois comme dans le travail de mise en scène du dispositif, mais surtout des interprètes, hein, ce coup-ci que j'ai trouvé vraiment tous montés d'un cran, et justement on n'est plus, certes l'extrait qu'on a entendu était quelque chose qui était envoyé, très fort, adressé, parce que vous dites, on parle pas au spectateur, mais enfin il y a quand même un certain nombre de monologues adressés au public, là vraiment, et pas seulement à la caméra, y compris le début de la deuxième partie, Mao 2, c'est vraiment Noémie Gantier qui est vraiment face publique et qui nous envoie vraiment son texte. Enfin, il y a plusieurs occurrences comme ça. Mais moi, je trouve justement, ils ont beaucoup plus de nuances d'interprétation, de jeu. On pouvait reprocher, j'ai pu le faire aussi, le côté crescendo systématique qu'il y avait pu avoir surtout dans 2666, même s'il aime beaucoup le spectacle. Là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de variations dans le jeu de comédien. Dire aussi qu'encore une fois, Hubert Collat a réussi une scénographie très intelligente, parce qu'elle est sans cesse remodelée. On a parlé de ce début où il joue dans une boîte, mais la boîte s'ouvre, là, les panneaux vont coulisser. Enfin, il y a une façon de... C'est vraiment une boîte à outils qui est formidable, j'imagine, pour Julien Gosselin et ses interprètes, que d'avoir cette scénographie d'Hubert Collat. Mais ma réserve va aussi vers... je sais pas si c'est le on comprend rien ou si c'est pour moi Don DeLillo plutôt, même si à l'évidence c'est Gosselin, on le sait, est un grand adaptateur, qu'il aime les mots, qu'il aime la langue, qu'il aime la littérature, ça on le sent, mais moi je trouve pas beaucoup de matière à penser en fait. Alors ce qui était présent chez Houellebecq, présent chez Bolaño, et il me semble que le propos est, enfin, tel que moi je l'ai perçu, était assez simple. C'est un peu ce que vous disiez, Caroline Châtelet. Il y a des fulgurances de pensée chez DeLillo. Il y a des choses comme ça tout d'un coup qui vous attrapent. Mais en même temps, pour moi, ça creuse pas beaucoup. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas été capable de rentrer dans les trous, dans les tunnels, mais bon, c'est difficile de faire vite dans cette émission, parce que c'est vrai que c'est 9h30, hein, ça, c'est moins long qu'à Avignon, hein, je l'ai revu, c'est là, on est à même pas 9h30, ce qui est presque court par rapport aux un peu plus de 10h d'Avignon. Mais alors, René Solis, vous parlez d'un moment, oui. Vous voulez parler, mais sur ce qui nous manque à Caroline Châtelet et moi, comment vous entendez ça?
Mais moi, je crois qu'on entend quand même, vous parliez des fulgurances, évidemment, il y en a, et il y a quand même une dimension, alors je sais pas si on peut dire prophétique, en tout cas, quand même tout à fait intéressant de penser que dans les années 70, ce grand romancier américain écrivait sur le terrorisme qui était, alors ça veut pas dire que c'était un sujet absent de l'actualité, mais
pour ça
n'a évidemment
fait partie des fulgurances.
Pas du tout la dimension. Et donc, ce qu'il dit là-dessus, sur ce rapport à la violence, encore une fois, il y a effectivement pas de l'ordre du discours, il y a plutôt, ça fait plutôt appel à la réflexion, à l'intelligence. Et ça ouvre des portes.
C'est l'intelligence à la Godard, vous voyez, qui est capable de monter deux images et tout d'un coup nous faire penser à quelque chose.
Et de nous laisser nous faire penser à quelque chose. Ouais. Donc moi, j'aime ça. C'est-à-dire, j'aime ce côté inabouti de la chose. En tout cas, c'est le travail demandé au spectateur. Moi, je j'aime pas être trop passif au théâtre.
Non, mais moi non plus. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas assez de matière pour travailler. Voilà.
Moi, je trouve qu'il y en a quand même plus que dans ce qu'il avait fait avec Houellebecq ou avec Bolaño. Mais
la scène
dont je voulais parler, c'est une heure du spectacle, donc c'est quand même pas mal. Et c'est justement une heure qui est très peu cinématographique. C'est dans Mao 2 et c'est la visite à Salinger. C'est comme ça, j'appelle. C'est-à-dire qu'il y a dans le roman un pastiche, on peut dire, d'un personnage, d'un écrivain qui vit retiré, reclus dans la forêt, misanthrope, etc. Et c'est l'histoire d'une photographe qui est obsédée par l'idée de faire le portrait de Salinger. Alors, il s'appelle pas Salinger, c'est un personnage romancé, mais l'allusion est évidente, elle est même pas cryptée. Et cette heure-là, dans le spectacle, l'histoire de cette photographe, de cet écrivain reclus, du couple de jeunes gens avec qui il habite, et toute l'histoire du voyage de la photographe pour arriver jusqu'à lui, et du dîner ensemble dans cette maison, je trouve que cette heure-là, théâtralement, parce que là, on est vraiment dans du théâtre, est absolument remarquable, et elle est tenue en plus par un comédien qu'on a retrouvé dans d'autres spectacles de Gosselin et dans Frédéric Lengens. Et Frédéric Lengens est un comédien formidable, mais qui a besoin d'être dirigé. Et dans 2666, j'étais pas très convaincu, par exemple, de la façon dont il avait été dirigé. Et je trouvais que c'était un peu d'être un peu laissé à lui-même. Et là, il est absolument formidable. Et cette heure-là du spectacle, moi, je la retiens. Alors vraiment, comme j'y ai pris un plaisir, je trouvais ça d'une intelligence, d'une pertinence théâtrale, d'une simplicité, d'une richesse évocatrice formidable. Et donc, pour cette heure-là, en particulier, merci.
Allez, dernier mot, Marie-Josée Sirage.
Oui, juste, vous disiez que Gosselin est un grand adaptateur, c'est aussi un grand lecteur. Et vrai que Don Lillo... Ce qu'il nous apporte, c'est ce qu'il pose à travers ces trois livres, ce sont des bombes à retardement. C'est-à-dire que ce qu'il écrit, lui, dans les années 70, c'est ce qu'il nous pète à la gueule, pardonnez-moi l'expression, aujourd'hui. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'interroge Gosselin. Et il l'interroge avec les mots de Lillo, mais avec les corps de ces acteurs d'aujourd'hui. Et ça, je trouve qu'il y a un travail extrêmement intéressant sur les corps, sur la présence, la non-présence, sur le fait que, quand vous parliez tout à l'heure, Caroline, on ne sait pas qui le regarde. Il regarde la caméra, mais il nous regarde nous en vrai, parce que finalement, je pense qu'eux-mêmes doivent oublier la caméra. Il y a quelque chose qui est assez finement abordé. Et moi, j'ai souvenir à Avignon quand même d'avoir vu. Pour moi, c'était pas un spectacle qui était fini. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce spectacle doit changer tous les jours. Je n'ai pas eu le temps de le revoir, mais il y a les acteurs. Il y a une liberté sur le plateau qui était formidable. Leur déplacement, leur jeu. Et on parle beaucoup de Godard, je pense aussi à Cassavetes quand même, dans cette façon de bouger très moderne, très, très réactive, aux mots, aux sons, à leur déplacement, tout ça fait que quand même, c'est un immense spectacle.
Joueur, Mao 2, les noms d'après Don DeLillo, mise en scène adaptée par Julien Gosselin, c'est jusqu'au 22 décembre à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, aux ateliers Berthier. Ensuite, au mois de janvier, ils joueront au Thalia Theater d'Hambourg, 19 janvier à Bonlieu, Annecy, 16 février au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, en partenariat avec Londres de Vélizy Vélacoublé. Et puis à Anvers, le 2 et 3 mars, à Brest au Quartz, le 16 mars, et puis du 23 au 30 mars au Théâtre National de Bretagne à Rennes. Et enfin, en avril 2019, ce spectacle sera donné à l'International Theater d'Amsterdam. À suivre. Dans la dispute, il nous faut arracher la joie au jour qui file. Love, 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 et un hommage de René Solis à Jean-Louis Rivière.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec « Il nous faut arracher la joie au jour qui file » d'après Hamlet de William Shakespeare. C'est un texte de Benjamin Poré, Mathieu de Certi, mise en scène Benjamin Poré, en ce moment à l'affiche du théâtre de Gémeaux à Sceaux avant d'aller à Brest, puis à Meaux, je donnerai les dates tout à l'heure. Nous avons déjà parlé ici de Benjamin Poré lorsqu'il avait repris sa mise en scène de Platonov aux ateliers Berthier en 2014. Il avait ensuite présenté notamment la trilogie du revoir de Boto Strauss à Avignon au festival en 2015. Ce nouveau spectacle est présenté comme une pièce filmique inspirée d'Hamlet de Shakespeare et Poré explique dans sa note d'intention vouloir retrouver plus de liberté par rapport au texte, ramener plus de corps sur le plateau et continuer à développer son univers visuel inspiré par le cinéma et la vidéo.
Quand mon équipe et moi-même sommes arrivés ce matin, nous avons découvert une anomalie sur la dépouille de votre mari.
Une anomalie?
Oui. Le corps de votre frère pourrit d'une manière tout à fait anormale. L'ensemble de son épiderme est comme rongé de l'intérieur et de l'extérieur. Le corps dans son intégralité est couvert d'une couleur bleue et un liquide s'échappe de chacun de ses pores.
D'accord, mais avec les moyens dont vous disposez, le corps pourrait tout de même être exposé?
Je suis au regret de vous dire que non. Cette décomposition dépasse de loin les moyens médicaux dont nous disposons. Et je n'ai jamais vu ça de ma carrière. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir en urgence, parce que c'est à vous de décider de la marche à suivre.
Mais il faut que le corps soit exposé.
Je sais bien. Mais je ne suis pas en mesure de vous offrir une solution satisfaisante. Nous avons prélevé des échantillons de ce liquide dont je vous ai parlé afin de les analyser dans notre laboratoire.
De quel droit? Appelez votre labo, là. Dites-leur d'arrêter ça tout de suite. Je vous rappelle que la dépouille dont vous avez la charge n'est pas celle de votre voisin de palier, c'est celle de mon frère, du roi. Et je ne sais pas si vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de solution.
Nous avons envisagé de conserver le corps dans le formol, par exemple.
Pardon, c'est hors de question. Le peuple doit avoir le corps du roi, pas un cadavre qui baigne dans le formol. Et puis on ne peut pas retarder l'enterrement. Le climat est déjà assez tendu comme ça depuis cette mort si soudaine. Trouvez une solution d'ici demain, dernier délai. Je ne vous laisserai pas en paix une minute, vous et votre équipe. Et si vous devez y passer la nuit, je vous conseille de commencer maintenant.
J'aimerais le voir.
Pardon?
Voir le corps.
Pourquoi tu veux voir ça?
Je veux le voir. C'est tout. Où est-il?
Au deuxième sous-sol, dans une chambre stérilisée.
Bien.
Dites à votre équipe qu'il en va de leur carrière. Vous m'avez comprise?
Il nous faut arracher la joie au jour qui file. D'après Hamlet, alors bon, on a entendu parler d'un roi mort, certes. Qu'est-ce qui reste d'Hamlet? Qu'est-ce que cette pièce filmique selon Benjamin Poré? Mais René Solis, pour commencer?
Alors, il reste quand même beaucoup de choses d'Hamlet. C'est un spectacle qui m'a laissé un peu perplexe tout du long, qui m'a en même temps intéressé d'une certaine façon. J'étais content de... content de rester, je sais pas comment dire ça, mais il y a la volonté de réécriture, elle est réelle, et il faut la saluer parce que il se coltine réellement une version moderne d'Hamlet. Donc la pièce, il reste un fil, mais à partir de ce fil, il invente, imagine des tas de situations, de scènes, il redistribue les rapports entre les personnages, il se centre sur les rapports parents-enfants, c'est vraiment ce qui est au centre de son spectacle. Mais bon, au-delà de ça, et je trouve par ailleurs que le spectacle est plutôt très bien joué, ce qui gâche rien. Mais je me suis aussi beaucoup posé la question sur le bon, à quoi ça sert finalement de réécrire Hamlet aujourd'hui. Et puis c'est quoi de nouveau? On est le cinéma, hein, la pièce filmique, il appelle ça. Et donc je me suis
posait beaucoup de questions sur cette histoire du cinéma au théâtre et de ce qu'il en faisait. Alors, on voit bien, hein, d'abord, on l'oublie quelquefois, mais quand même le cinéma, l'origine du cinéma, c'est le théâtre. Le premier film, c'est du théâtre filmé. Et ensuite, on revient depuis 10-15 ans, il y a quand même cette multiplication des images, de la vidéo en direct sur scène et tout, avec tout ce que ça comporte de tics quelquefois, d'effets faciles. Alors, on voit bien ce que le cinéma peut apporter au théâtre, qui est le gros plan d'une part et la vie de la coulisse d'autre part, ce qui se passe hors champ, qui sont deux choses qui évidemment intéressent les spectateurs. Et c'est intéressant d'avoir des gros plans et c'est intéressant de voir ce qui se passe en dehors. On est quand même mieux d'avoir ça au cinéma que d'avoir des jumelles. La jumelle, ça n'a jamais été un instrument très très intéressant. Mais je réfléchissais à la façon dont il reconstruit cette histoire. Et en fait, le modèle, il n'y a pas seulement la technique du cinéma. Il y a un modèle qui me paraît évident et qu'on sent dans beaucoup de spectacles contemporains, qui est le modèle de la série télé. Alors, il y a, d'une certaine façon, une tentative de réécriture d'Hamlet en pensant à ce modèle de la série télé. Et on parlera tout à l'heure de Jean-Louis Rivière. C'était une des grandes idées de Jean-Louis Rivière. C'était que la grande tragédie contemporaine, la grande tragédie classique d'aujourd'hui, c'était les séries. Il a écrit d'ailleurs un essai remarquable intitulé « Oz » qu'il a fait paraître il y a 2 ans là-dessus. Et je me disais... En fait, ils visent ça, d'une certaine façon, mais les scénaristes d'Hollywood feraient mieux. Donc, il y a quelque chose qui reste un peu, qui va laisser un peu perplexe.
Marie-Josée Sirage sur ce spectacle de Benjamin Poré.
Écoutez, moi, j'ai découvert son travail, puisque je n'avais jamais eu l'occasion de voir ses spectacles auparavant. Et j'ai trouvé très intéressant, parce qu'effectivement, il vient se glisser entre un Julien Gosselin ou un Cyril Test qui ont une maîtrise...
Cyril Test lui fait des performances filmiques,
et
je le rappelle.
Cyril Test qui fait des performances
filmiques. Chacun son appellation.
Et, voilà, effectivement, mais sa marque de fabrique aussi. Et c'est vrai que lui, il parvient à créer autour de cette écriture de Hamlet une connivence entre la réalisation filmée et le plateau qui est très très intéressante. Et puis cette façon qu'il a de renouveler le regard que l'on peut porter à Hamlet, qui est quand même toujours un peu cet intello à migraine, frappé d'impuissance au moment d'agir. Là, tout d'un coup, sur la question, il tranche très vite la question de la folie. Il n'est pas fou, il a une dépression, ce qui est normal, vu la mort de son père, vu ce qu'il arrive à comprendre, on le saurait à moins. Il va faire son petit séjour et là il repart. Et la relation qui s'instaure avec Ophélie est extrêmement vivante, c'est-à-dire que c'est une relation d'amoureux d'aujourd'hui, quand bien même les parents sont peut-être pas très contents parce qu'ils sont pas du même bord, où il y a d'autres intérêts non dits. Eux s'aiment, c'est-à-dire que et ils s'aiment vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont des relations, que elle est enceinte, enfin, je veux dire tout ça renouvelle quand même cette vision shakespearienne et c'est très shakespearien en même temps. Donc moi j'ai passé, c'était intriguant comme travail. On entre assez facilement d'ailleurs par ce premier film, l'extrait qu'on a écouté. Il y a le côté série télé, c'est vrai. Donc on se dit mais waouh, et ce petit film d'introduction comme un prologue, qui est un flashback qui revient à l'origine du crime, permet d'entrer dans ce dispositif là avec des acteurs qui tous tiennent bien la route.
Caroline Châtelet, pour votre regard sur cette production de Benjamin Poré.
Alors d'abord, un rectificatif sur le titre en fait. Il nous faut arracher la joie au jour qui file. Ça, c'est tiré de la traduction qui a été faite par Katia Granoff pour l'anthologie de la poésie russe éditée chez Gallimard. Et en fait, c'est cette version-là qui avait été prise pour le Printemps des Poètes en 2015 pour illustrer la manifestation. Et à ce moment-là, l'écrivain et traducteur Yvon Mignot avait signalé une erreur. Qui est lié à la traduction. En fait, le poème en russe de Mayakovsky pourrait se traduire plutôt par, non pas par des jours qui filent, mais par des jours à venir ou des temps futurs. Donc voilà. Après,
d'ailleurs, j'ai fait de lapsus l'autre jour, j'ai parlé pour les jours qui viennent.
Parce que eh bien voilà. Que... Eh bien en fait c'est cela.
Ouais, je parle russe couramment. Donc c'est tout.
Après on a bien toujours quand même. Enfin ce qui demeure c'est cette idée d'arracher, c'est cette idée de lutte. C'est vrai que la réécriture de la pièce nous montre des personnages en lutte dans leur vie, en lutte pour le pouvoir. Donc le spectacle, en fait, c'est vrai qu'il s'articule, il se fonde vraiment sur trois axes. Il y a d'une part la grande présence de la vidéo, il y a la réécriture et l'adaptation, et il y a surtout l'actualisation, puisque que ce soit par les décors, les costumes ou la langue, on est vraiment dans un monde contemporain. Donc les dialogues sont actualisés, les discours de Claudius notamment, qui évoquent le problème de la culture versus des enjeux économiques. Donc il veut mettre l'art et la culture au cœur de sa politique. Mais en fait... j'ai été quand même dans l'ensemble extrêmement perplexe, puisque je trouve que ces discours et cette langue sonnent très faux. Et on arrive quand même à quelque chose d'assez cliché et de très stéréotypé. Ce qui pour moi pourrait être le côté le pire quand on peut évoquer des séries justement. Donc c'est vrai que Benjamin Poré, lui, dit avoir souhaité apporter un nouveau regard sur les personnages, mais tout ça est vraiment d'une extrême pauvreté. Et moi, je trouve qu'en fait, j'ai plutôt assisté à une disparition de la tragédie et de la puissance de la tragédie. Et en voyant des comédiens aussi se débattre justement face aux contraintes que pose la présence de la caméra et de la vidéo, avec parfois un jeu très en force ou très hystérisé, ce qui amenait quelque chose d'assez tautologique au final, puisque par exemple il y a un moment où Claudius est en coulisses à jardin, Gertrude, son épouse, est en coulisses à cour. Ils sont tous les deux filmés chacun leur tour. Ils sont tous les deux dans un moment d'effroi et de délire. Et ils surjouent ces moments de délire alors que nous les voyons par gros plan. Donc c'est comme si les comédiens n'avaient pas forcément su doser leur jeu en regard justement de la présence de cette caméra. Et je trouve que c'est vraiment aussi les questions que nous posent tous ces spectacles aujourd'hui qui traitent, qui font vraiment usage de la vidéo.
Alors, ce ne sont pas tant les comédiens que le directeur d'acteur, en l'occurrence le metteur en scène, qui lui doit voir et jauger. Non, parce que je me permets de reprendre, parce que je sais bien que c'est votre pensée, Marie-Joëlle Sirache.
Mais moi, j'aime bien justement, vous dites que ça sonne faux. Il y a une espèce de il y a une contradiction sur laquelle il travaille. C'est l'attitude extrêmement erratique, élisabéthaine des acteurs dans leur jeu, dans leur gestuelle, dans leur phrasé, avec la modernité du propos, parce que les enjeux de pouvoir, il les propulse dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, Claudius, on a l'impression que ça peut être un président très proche ou de ces cinq dernières années pour dans cette façon de faire de la politique, de s'adresser au peuple avec ce mépris, cette condescendance. Bon, voilà, beaucoup peuvent s'y reconnaître. Et c'est ça qui est intéressant. J'aime bien cette contradiction, cette façon. Donc ça peut créer effectivement un petit sentiment de flottement, mais moi je trouve que ça provoque quelque chose qui nous parle quand même.
René Solis.
Oui, non, moi je rejoindrais plutôt Caroline là-dessus sur le fait que la tragédie elle est un peu évacuée d'une certaine façon, c'est-à-dire se donne la peine d'imaginer une vraie réécriture et d'imaginer des situations et des rapports avec les personnages. Il tire des films, et qui sont des films, oui, qui sont quand même qui renvoient, je trouve, à la psychologie de sitcom. Voilà, même si les rapports parents-enfants exacerbés, etc. Mais c'est pas mal. Il y a des choses. Je trouve que sur la langue elle-même du texte, c'est assez inégal. C'est-à-dire, il y a des choses très faibles. Les discours, les allusions à la culture, par exemple, les discours de Claudius. Mais ils sont aussi volontairement incroyablement plats et creux,
comme les vrais.
Comme les vrais. Donc là-dessus, mais il y a aussi des d'assez beaux moments. Le dernier ou l'avant-dernier monologue d'Hamlet, c'est pas mal. Ça a une certaine allure. Mais je pense moi aussi que toutes ces histoires d'actualisation, je veux dire, non, jouer Hamlet aujourd'hui avec une mise en scène suffisamment intelligente, pertinente et des bons acteurs, tous les enjeux d'aujourd'hui sont là, éclatants, évidents, et la pièce,
elle est tellement infinie qu'on peut, alors, elle est tellement infinie qu'on peut en faire ça aussi, et qu'après tout, on y trouve matière à imaginer, à inventer, à, pourquoi pas, enfin, je vais pas du tout empêcher de, mais c'est vrai que si on revient au texte, c'est pour ça que ma perplexité, je me disais tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas remonter la pièce, c'est aussi pertinent.
Quand même. Pourquoi avoir fait ça?
La question du pourquoi.
Caroline Châtelet.
Mais oui. Non, mais oui, c'est ça, oui. Pourquoi avoir choisi de réécrire pour arriver à cette forme-là? Qui est très plate, très simplificatrice. De la même manière, je ne comprends absolument pas la présence de la religion. On a Hamlet qui est très très pieux. Il y a aussi Claudius qui régulièrement se rend à l'église, mais tout ça, ça n'apporte rien. En fait, ça n'apporte aucune densité ni complexité au spectacle en lui-même, quoi.
Pas d'accord,
Marie. Non, je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, la présence du religieux là-dedans, je suis désolée, mais il y a le retour du religieux depuis 15 ans quand même dans ce pays, en France. Donc, ça, je trouve ça très bien. Et puis, c'est une drôle de religion, d'église quand même, parce que elle nous tourne le dos, et il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de croix, mais un écran de cinéma. Donc, je trouve ça plutôt intelligent de sa part.
Allez voir par vous-même, il nous faut arracher la joie au jour qui file, c'est le vrai titre, d'après Hamlet. Spectacle de Benjamin Poré jusqu'au 21 décembre au Théâtre des Gémeaux à Sceaux. Et puis il y aura les deux dates au Quartz à Brest les 9 et 10 janvier et au Théâtre Luxembourg de Meaux le 17 janvier. C'est le moment d'un coup de cœur rendu par René Solis à Jean-Loup Rivière. J'avais évoqué notre ancien camarade Jean-Loup Rivière, avec qui on a fait quand même pas mal de radio aussi, lors de l'annonce de sa disparition il y a deux semaines de cela maintenant. Et René Solis, bien sûr, avait envie de lui rendre hommage. René.
Oui, donc coup de cœur, coup de blues, mais finalement coup de cœur, c'est pas mal de dire un coup de cœur pour Jean-Loup Rivière, parce que Jean-Loup Rivière, donc, il est mort le 23 novembre à Paris. C'est peu dire qu'il manque au théâtre, c'est vraiment une absence. Donc enseignant, alors à l'heure où on parle, nous parlons, se tient au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris un hommage à Jean-Loup Rivière, donc on y participe d'une certaine
absolument.
Façon. Et enseignant, le conservatoire où il avait enseigné, le professeur,
où il enseignait, au présent même, je pense.
Oui, il était, oui, absolument. Critique de théâtre, dramaturge au sens plutôt allemand, conseiller littéraire, ça a été une de ses fonctions. Mais le mot, je trouve, qui lui va le mieux, c'est quand même celui de penseur du théâtre. C'est quelqu'un qui pensait le théâtre et qui partageait sa pensée du théâtre, et la conversation de Jean-Loup Rivière était absolument formidable, parce que il avait cet art de vous faire sentir plus intelligent quand il parlait avec vous. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité à ouvrir des pistes, des portes un peu inattendues, à avoir toujours des points de vue paradoxaux, tout à fait curieux, et en même temps à le faire de façon pas du tout surplombante. Donc il y avait un goût de l'échange qui était chez lui très fort et très marqué, et il y avait un plaisir de la pensée, c'était un jouisseur de la pensée, c'était un épicurien de la pensée, c'était un épicurien de la vie aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui avec qui on pouvait parler théâtre, et ô combien, j'ai souvent parlé théâtre avec lui, mais aussi de beaucoup de choses. C'était un gastronome, c'était quelqu'un qui aimait, et qui en parlait
la
aussi
vie.
Très bien, qui aimait la vie. Et donc c'est je pense que le mieux, c'est peut-être de lui laisser la parole. Il avait publié en 2002 à l'Arche un essai sur l'amour du théâtre, comment est la nuit, et un petit extrait. Quelques émotions, quelques pensées survenues à tout âge de la vie et souvent très tôt ne vous ont pas laissé en repos. Ni elles ne se dissolvent dans l'oubli, ni elles ne peuvent se ranger dans le tiroir des affaires classées. Elles sont devenues un membre étrange et insistant de la famille intérieure où, avec chaque image, quelques cicatrices, quelques gestes, un sujet se reconnaît sans se comprendre. Que cette émotion et cette pensée aient été suscités par le théâtre, alors leur énigmatique persistance et leur désirée variation peut prendre le nom d'amour du théâtre.
Voilà, l'amour du théâtre, lisez Jean-Loup Rivière.
La dispute, France Culture. Get the right.
Le dernier spectacle à notre affiche ce soir, Love, 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 de Mike Bartlett, mise en scène Nora Granovski, c'est à voir au théâtre de Belleville, jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Il est né en 80, Mike Bartlett, il avait 30 ans quand il a signé Love, Love, Love. Saga familiale, trois moments clés dans l'histoire britannique, du Swinging London à de la fin des années 60 à la Grande-Bretagne pré-Brexit, en passant par la fin du Thatcherisme. Quatre comédiens sur scène qui vieillissent sous nos yeux et s'interrogent sur les utopies.
Très bien.
Quoi?
Et même si.
Et même si quoi?
Ah, même si j'avais un amant.
T'en as un?
Faut qu'on parle.
Ah, donc t'en as un.
Non, et même si.
Je joue pas. Pas ce soir. On peut faire ça une autre fois.
Kenneth!
Bah, on parle en théorie, c'est ça?
Ouais, en théorie, exactement.
Je déconne pas. Je veux te parler. Je veux que tu sois franche. C'est pas drôle.
Mais c'est que des mots, Kenneth. Je ne fais que demander ce que tu ferais si j'en avais un.
C'est un test?
Une question.
T'en as envie, c'est ça?
Qu'est-ce que t'as ce soir?
J'en ai marre! Ouais, j'en ai marre!
Faut qu'on parle, Kenneth. On a toujours su le faire.
Ouais, d'accord.
Tu voudrais pas me coincer quand même?
Donc tu te sens coincé?
En théorie.
Mais bien sûr que je veux pas te coincer. Pourquoi tu cherches?
J'ai toujours. On a toujours dit qu'il n'y a rien de pire que de se sentir étouffé.
Bon, qu'est-ce que t'as fait?
Parce qu'on va mourir.
Qu'est-ce que t'as fait?
Rien.
On va mourir. T'as raison. C'est une des rares choses que tu admettes, la mort approche. Alors, qu'est-ce que t'as fait?
Maintenant, quand je me regarde dans la glace, je vois un fantôme.
La clope, ça aide pas.
Love, love, love. On vient d'entendre cet extrait. Marie-Josée Sirache.
Oui, là, on entend Kenneth et Sandra, Bertrand Poncé et Jeanne Lepère. Ça, dans la troisième partie de la pièce, c'est-à-dire que là, ce sont...
La plus contemporaine.
La partie la plus contemporaine. On les a connus en 69. Par le plus grand des hasards, finalement, ils finissent par se marier, en se rencontrant dans l'appartement du frère de Kenneth. Ont des enfants, donc... et on suit cette histoire-là, donc... Comment dire? Moi, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y a des acteurs qui sont très présents, qui parviennent à nous embarquer, mais pas tout le temps. Donc, et je pense très sincèrement que c'est dû à la faiblesse du texte. Je trouve ce texte quand même un petit peu surfait. Assez étonnant de... Je trouve il est très naïf, et sur 69, et sur Thatcher, et sur aujourd'hui. Parce que si la génération des jeunes gens d'aujourd'hui, les seuls comptes, enfin leur façon de régler leurs comptes à ceux qui les ont précédés, c'est de leur réclamer du pognon ou un appartement. J'ai trouvé
parce que
ça.
C'est ce qui se produit en effet.
C'est ce qui se produit à la fin. Enfin bon, on dévoile rien, mais peu importe. Mmh. Mais cette façon de régler son compte à 68, aux idéaux, je trouve ça un petit peu. Alors. Au premier degré, je trouve ça totalement puéril. Alors, s'il faut peut-être entendre un second degré, mais enfin, je ne suis pas certaine qu'il y ait un second degré pour dire que la futilité, qu'il n'y a plus d'idéal aujourd'hui. Mmh. Enfin, je ne pense pas que ce soit ça.
Bon, on reviendra là-dessus. Caroline Châtelet.
Alors, pour moi, ce n'est pas un régler son compte à 68, c'est faire le procès d'une génération qui a vécu 68, ce qui est donc différent. Enfin, ce serait ceux qui sont passés du Colmao au Rotary Club.
Ouais.
Donc, en fait, c'est... Oui, voilà, c'est le titre d'un livre de Guy Hockengame. Donc, en fait, c'est vraiment ça, au final, que le texte déplie en trois parties, sachant que si Love, 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 ce sont les paroles de la chanson des Beatles qui est diffusée en Mondovision pour la première fois en 67, c'est aussi les trois séquences du spectacle où on a trois séquences d'amour et de désamour au sein d'une famille. Mais après, moi, ce que je trouve plutôt intéressant dans la pièce, justement, c'est qu'on part d'une situation, d'un drame familial, pour nous raconter l'évolution d'une génération à travers ce couple qui se rencontre en 67, qui décide de se séparer en 90 et qui en 2011 se retrouve et où là on a la fille qui elle demande des comptes à ses parents. Alors c'est vrai qu'en fait elle demande des comptes à ses parents, ce qu'elle demande c'est qu'il lui achète une maison. Mais en fait elle demande à ce qu'il lui achète une maison parce que elle, sa situation, c'est la seule. En fait, c'est le personnage qui demeure pur tout au fil de la pièce, qui ne boit pas et qui ne fume pas quand elle est adolescente, qui suit à la fois son désir, mais qui en même temps répond à celui de ses parents qui lui disent « Toi, tu sais ce que tu... Enfin, tu as la possibilité de faire ce que tu aimes, fais-le. » Et au final, elle se rend compte qu'elle est précaire, pauvre, nulle part, donc sans enfant, et donc elle impute ça pour partie à ses parents. Elle se rend compte qu'elle est dans une société qui ne veut pas d'elle, et comme elle l'adresse à ses parents, vous n'avez pas sauvé le monde, vous l'avez vendu, enfin non, vous l'avez acheté plutôt. et donc moi je trouve que, enfin je suis moins dure que vous avec la pièce, parce que moi je trouve que la pièce marie ces choses-là de manière très intelligente, et pour le coup en plus dans la mise en scène, les comédiens s'en sortent quand même très bien. Il y a notamment Jeanne Lepers qui a un jeu à la fois désinvolte, qui fait la mère manipulatrice et perverse, qui passe vraiment par tous les états pour un dispositif, une mise en scène qui est très simple formellement, mais sur une économie de moyens, mais qui plutôt tire plutôt bien son, enfin la metteuse en scène tire plutôt bien son épingle du jeu par rapport au texte.
Alors, un point pour l'équipe, un point pour le spectacle, enfin pour la pièce. René Solis ?
Moi, je serais plutôt d'accord avec José Serra sur le texte est assez faible. J'ajoute que j'ai l'impression que la mise en scène en français, en fait, souligne, met le doigt sur les faiblesses du texte. Alors moi, j'ai entendu presque tout le long, je me suis dit, mais en fait, c'est très réac. La thèse de la pièce, c'est quand les parents 68 ans, enfin, hippies, boivent, les enfants trinquent. Donc il y a un côté très réac. Et puis il y a une espèce de renversement, mais qui n'est pas très convaincant à la troisième partie, où la fille qui vient régler ses comptes à ses parents laxistes qui en fait les ont se sont très mal occupés d'eux, qui sont des égoïstes, leur dit oui mais en fait vous nous avez répété tout le temps que vous étiez des rebelles et en fait vous avez fini par voter Thatcher et Tony Blair et tout ce qui vous intéresse c'est le fric, et là tout d'un coup il y a comme une caution, ah non c'est peut-être pas si réac puisqu'elle dénonce, mais tout ça est pas très convaincant. C'est du boulevard politique et le boulevard politique c'est difficile. Alors quand on pense à Pinter, la grande différence, c'est que Pinter, ce qui est formidable dans ses pièces, c'est que ça déraille tout le temps. C'est-à-dire qu'il a le don, les pièces de Pinter ont le don pour créer le malaise. Il y a beaucoup d'histoires de famille dans Pinter, et de la politique est là aussi, mais on est tout le temps dans un malaise. Et là, on n'est pas dans un malaise. Je veux dire, la pièce, elle est sur des rails et elle ne déraille pas, justement. Et je pense que c'est sa faiblesse. J'ajoute que je pense que jouer en anglais, en Angleterre, avec les références, pour le coup, d'époque, et des personnages qui sont des archétypes, et jouer par des bons acteurs anglais, je pense que ça peut fonctionner assez bien. C'est-à-dire que on comprend, comme il n'y a pas ces références-là, donc elles sont forcément un peu plaquées, elles sont reconstruites, et puis c'est des acteurs, ils ont quand même un peu de mal avec ça. Donc oui, on est quand même, moi je suis restée plus que circonspecte.
Caroline Châtelet.
Oui, alors même si je suis entièrement d'accord avec vous, le fait que ce que la fille réclame à ses parents, c'est un appartement, ça c'est quand même assez problématique, mais en même temps, ce qu'elle veut, c'est juste une assurance. Mais pour moi, cette pièce, je ne l'ai pas prise dans le sens de réactionnaire. En fait, c'est plutôt un constat qui est très sombre, mais qui est à la fois extrêmement réaliste, parce que en fait, pour moi, ce que raconte cette pièce, c'est que la fille, avec ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle est la perdante, parce que la société que ses parents, à elle, ont construite est une société qui ne veut pas d'elle, parce que c'est une société ultra-libérale qui a été complètement vendue ou achetée, et où d'ailleurs, les grands gagnants, ce sont les parents, tout comme à la fin de la première, à la fin du premier acte, Sandra propose à Kenneth de la suivre, ils partent tous les deux. À la fin du troisième acte, c'est Kenneth qui propose à Sandra de le suivre et ils vont partir faire le tour du monde. Donc, on a l'impression que eux-mêmes vont continuer toujours leur vie hédoniste avec une absence de conscience d'urgence politique. Après, il y a un côté un peu, sont des figures un peu caricaturales, évidemment. Mais oui, moi, je l'ai plus pris comme quelque chose d'assez acerbe, mais pas de réactionnaire.
Marie-Josée Sirache.
Non. Je trouve qu'elle devrait quand même... moi, ce qui me gêne, par exemple, c'est qu'elle se rebelle contre ses parents, mais elle n'a qu'à se rebeller contre le monde. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu facile. Enfin, moi, c'est ça que je trouve agaçant. C'est pas une ado de 15 ans. À 15 ans, oui, on se révolte contre ses parents. C'est eux qu'on prend pour cible. Quand on a 30 ans, je suis désolée, même si la vie est dure, et elle est dure, hein, et elle est injuste, et on se dit qu'effectivement, peut-être nos parents avaient plus de chance il y a 30 ans ou il y a 40 ans, mais c'est pas tes parents que tu t'en prends. Enfin, je pense que c'est... on s'en prend au monde. Voilà, on s'en...
Mais là, c'est un jugement plus sur le personnage, Marie-Lo
de Sierra. Oui, il m'agace, ce personnage.
J'entends bien, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, mais on en connaît. Je veux dire, le monde occidental est peuplé de jeunes femmes de 30 ans ou de jeunes hommes de 30 ans qui sont dans ce type de posture, de position, enfin, de quémander, de se plaindre, etc. Enfin, il y a quand même une sorte d'effet de réel.
Ils n'arrivent pas à se défaire de leur héritage. C'est Et c'est ça qui, moi, m'interroge dans cette pièce-là, parce qu'effectivement, j'ai pensé à Pinter dès le départ, hein, avec ces personnages-là.
Et ça tient
pas, la route, parce que et même dans le parti pris dans la direction d'acteur, parce que Sandra Jeanne Lepers, qui est formidable, on l'avait quand même jouée tout le temps un peu pareil, c'est-à-dire les yeux explosés, comme elle a pas décroché, elle a un peu trop fumé en 69.
Et il y en a depuis, qui sont restés perchés, vous savez.
Elle est restée un peu perchée, elle est un peu restée accrochée au rideau, et elle n'est jamais redescendue. Donc, et là, il y a jamais de nuance. Et quand même, ce qui autour, ça se délite dans leur famille, mais eux, ils sont ailleurs. Bon, effectivement, c'est un peu. Ils auraient pu être en Inde, dans un ashram, enfin, je sais pas.
Bon, partagé sur le fond, sur la forme, là encore, il faudra aller voir par vous-même. Voir Love, Love, Love de Mike Bartlett, mise en scène Nora Granovski, jusqu'au 29 décembre au Théâtre de Belleville. Il y a d'autres dates à venir. Le 31 janvier au Manège, scène nationale de Maubeuge. Le 1er mars au Chevalet de Noyon, plus exactement, et le 10 mai au Mannequin de Pont-Sainte-Maxence. Vous dire enfin que le texte que vous aimez tant, René, est traduit en français par Blandine Pellissier et Kelly Rivière, est édité chez Actes Sud Papier. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion, qui nous a rejoint, qui va tout d'abord nous rappeler la question posée vendredi soir et nous donner sa réponse, Sarah.
La question était: dans quel style de danse s'illustre le chorégraphe Rachid Ouramdan ? Et la réponse est la danse contemporaine.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour une exposition. L'exposition Michel Riopen et un couple dans la démesure. C'est à voir au fond Hélène et Edouard Leclerc pour la culture à Landerneau. Exposition ouverte jusqu'au 22 avril. Quelle est la question, Sarah ?
Au sein de quelle ville se trouve la fondation de Joan Michel ?
Eh bien, votre réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter notre émission et vous abonner à son podcast. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie de Lucille Como, Anna Sigalevitch et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, un autre Hamlet, d'après William Shakespeare. C'est un opéra d'Ambroise Thomas, dirigé par Louis Langret, mis en scène par Cyril Test. Ce sera jusqu'au 29 décembre à l'Opéra Comique. On évoquera l'Hamlet de ce soir. Così fan tutte de Mozart, dirigé par Joshua Wellerstein, mise en scène Jean Liermé. C'est disponible sur Arte Concert. Et puis un disque d'Arvo Part par Victoria Mulova et Pavo Jarvi. Il y aura également un coup de cœur d'Anna Sigalevitch pour la Fondation Royaumont-Orsay.